Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, notre invité est monsieur Christophe Bouchon. Bonjour.
Bonjour et
comment vas-tu ?
Bien, merci.
Christophe, tu es ici pour nous parler de Ziga Zaga. C'est une structure que tu proposes depuis 2 ans à peu près. Et tu vas peut-être nous expliquer aussi cette démarche. Et régulièrement, avec Sources et Racines, l'association Sources et Racines, tu organises des sorties nature et puis aussi des ateliers autour de la vannerie, des outils pédagogiques également. Alors, pour toi, avant tout, cette création de Ziga Zaga correspondait à quoi ?
Eh bien, Ziga Zaga, c'est le début de mon passage de salariat en tant qu'animateur environnement à un passage d'entreprise individuelle, donc en micro-entreprise. Et la possibilité de varier les métiers, c'est-à-dire que mon métier de base, c'est animateur environnement. Et Ziga Zaga, c'est aussi la structure qui porte la cueillette et la vente de plantes sauvages. Voilà, donc j'ai 2 activités. Donc c'est ça, Ziga Zaga.
Ziga Zaga signifie quoi ?
Alors Ziga Zaga, en occitan, ça veut dire zigzag. En occitan d'ici même, en occitan du Diwa et en provençal aussi.
C'est à l'image des chemins que tu empruntes ou que tu fais emprunter dans ces sorties nature ?
Alors oui, il y a de ça en fait. Ziga Zaga, c'est zigzag. Donc en fait, on part toujours sur un chemin en sortie nature. Et puis, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un ou moi-même qui avons envie d'aller fouiner en dehors du chemin. Donc, on sort du chemin. Donc, ça zigzague. Et puis, le deuxième volet du zigzag, c'est ce métier de cueilleur. C'est l'inverse. Je prends quasiment jamais les chemins et je zigzague à travers les friches ou les champs pour aller récolter des plantes ou les prospecter.
Il y a le zigzag aussi de la vannerie, hein, une activité que tu proposes, donc on en reparlera un peu plus tard. Avant, tu te présentes aussi comme éducateur à l'environnement. Donc, qu'est-ce que c'est cette activité, ce métier est-il reconnu ? Est-ce qu'il est diplômé ?
Alors oui, c'est un... Alors, l'éducateur à l'environnement, c'est le terme officiel, en fait. Le vrai terme officiel du diplôme, qui est un brevet professionnel de jeunesse et des sports, c'est éducateur à l'environnement pour un développement durable. Ça, c'est le terme officiel. Je n'utilise plus le terme éducateur à l'environnement aujourd'hui. Je préfère retourner au terme animateur environnement. Donc le principe de ce métier, c'est d'accompagner des gens et de leur faire découvrir sur des thématiques précises sur lesquelles on est. Par exemple, ça peut être près de la rivière, donc les zones humides. Et ben tout ce qu'on peut découvrir en termes de faune, de flore et de vivant dans les milieux particuliers. Donc ça peut être en montagne aussi. Alors en montagne, moi j'ai pas vraiment le droit d'amener des gens pour faire des randonnées parce que je ne suis pas accompagné en montagne. Mais ça peut être aussi la forêt, ça peut être aussi d'autres systèmes vivants.
Alors, cette activité, tu la pratiques depuis 2014, ce qui t'a amené aussi avec ce lien de Sources et Racines. D'ailleurs, depuis combien de temps Ziga Zaga gravite autour de Sources et Racines ?
Ça va faire un an. Et un an que je participe à l'aventure de Sources et Racines. Et avant, je participais avant à l'aventure de l'école pratique de la nature et les savoirs avec l'école Caminando en tant que salarié. Et maintenant, je continue à participer à cette aventure en tant que prestataire, comme avec Sources et Racines.
Qu'est-ce qui t'a attiré justement sur cette notion que défend sur ses racines, dans son nom d'ailleurs, on peut retrouver cette idée.
C'est le spectre large d'intervention. Et initialement, c'est Marie Marquet avec qui on s'est rencontré avec Marie, et elle a aussi une compétence et une appétence pour les matériaux, puisqu'elle est teinturière, et elle connaît aussi certains aspects de la vannerie. Et donc, on a commencé elle m'a proposé une intervention au musée de Die sur la préhistoire pour faire du cordage, de la cordelette. Et voilà, ça a fait le travail ensemble, la proposition qu'on a fait. Et là, on est parti sur ce principe-là de partage de compétences et puis de mise à disposition de compétences et d'envie de faire ensemble au sein de l'association.
Et donc, cette association t'a permis, avec Zigazaga, donc, de proposer des sorties nature. Ces sorties nature s'opèrent principalement dans le Diwa.
Oui. Il y a toutes les sorties que je fais dehors, quelle que soit la structure avec laquelle j'interviens, ça se fait dans le Diwa, uniquement dans le Diwa.
L'emprunt, ce sont les chemins ou champs. Je récapitule, hein. Des champs au versant et des versants au bord de rivière. Dans ces parcours-là, c'est là que tu peux démontrer ou désigner les plantes qui sont nécessaires peut-être à la création d'objets, hein, comme la vannerie. Tu as cité aussi le cordage. Il y a d'autres activités aussi autour de ces matériaux naturels qui permettent la confection d'outils ou d'accessoires.
Là, disons que ce qui m'intéresse, c'est d'aller rechercher des matériaux qui sont possiblement utilisables pour la fabrication d'objets de vannerie, donc des petits paniers, des mangeoires à oiseaux, des nichoirs. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais il y a aussi les sorties botaniques. Les plantes pour connaître les plantes et puis les connaître dans leur milieu. Et puis je fais le lien avec ce second métier que j'ai, qui est de cueilleur et de récolte et de vente de plantes sauvages. Et il y a aussi le côté un peu usage en phyto, quoi, en phytothérapie, en tisane et en transformation alimentaire.
Donc un gros développement d'activités autour de la nature, de ce que la nature propose dans le Diwa. J'aimerais revenir sur les mangeoires et nichoirs. Comment se présente cette activité? Est-ce que il est possible de suivre un stage de vannerie ou de confection de ce type d'objet?
Oui, c'est tout à fait possible. Je ne l'ai pas programmé, en fait, parce que les mangeoires et nichoirs, pour l'instant, elles sont beaucoup proposées par les associations comme la LPO, par exemple, qui font des mangeoires et des nichoirs plutôt en bois. Donc, je n'ai pas proposé encore de série de stages pour faire mangeoires et nichoirs. Le dernier stage qu'on a fait dimanche dernier, c'était plutôt la fabrication d'un petit étui, mais qui peut se transformer en mangeoire. Après, ça dépend. On peut le transformer aussi en lampe à jourer. Ça dépend de ce que veut en faire. Peut-être qu'un jour, ça viendra, qu'il y aura une demande peut-être d'école ou d'association pour faire spécifiquement mangeoires et nichoirs.
Alors la vannerie, pour toi, c'est une technique que tu as découvert il y a combien de temps? Est-ce que c'est aussi un héritage familial?
Alors, j'ai découvert la vannerie de façon très surprenante pendant ma formation d'animation, d'animateur environnement. J'ai eu une semaine complète de formation, et ça, c'était vraiment la sensibilité de mon formateur, de notre formateur. Et je l'en remercie d'ailleurs, parce que depuis, ça ne m'a plus quitté. Donc depuis 2014, je la pratique un petit peu pour moi. Et puis là c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté et que j'ai envie de, voilà, de continuer à expérimenter. Et par rapport à l'héritage familial, c'est vraiment en parlant un peu au hasard avec des vieux oncles de plus de 80 ans, quand je leur disais que je faisais de la vannerie comme activité, ils m'ont dit que eux, ils faisaient de la vannerie quand ils étaient enfants, avec leurs parents, pour refaire des paniers l'hiver, pour les refaire pour les récoltes d'été. Donc là, il y a un héritage familial, mais je pense qu'il y a un héritage collectif aussi, c'est-à-dire que nos anciens... avant qu'il y ait tout ce qui est cabas plastique et tout ça, dans le milieu rural, faisaient eux-mêmes leurs contenants.
Je reviens sur cet aspect aussi du plastique, hein, qui est utilisé essentiellement pour transporter des marchandises ou des paquetages. Est-ce qu'il y a une demande aussi croissante d'une population pour avoir cet objet, de pouvoir en créer aussi? Est-ce qu'il y a un retour à ce type d'objet pour transporter?
Moi, je ne sais pas s'il y a une demande... à ce type d'objets pour transporter.
Je parle au niveau des inscriptions ou des demandes de participation à ces stages de vannerie.
Ah oui, enfin, en tout cas, toutes les personnes qui s'inscrivent sont contentes de s'inscrire et sont contentes de trouver au moins quelqu'un qui puisse proposer ce genre de projet. Oui, il y a de la demande, oui. Oui, il y a une envie. Mais je pense que la vannerie, ça... J'étais ailleurs sur un autre territoire avant, ça a toujours suscité un peu l'intérêt, c'est-à-dire c'est super de pouvoir savoir fabriquer soi-même un petit objet avec des matériaux qui, on va dire, sont gratuits parce qu'on les trouve dans les haies qui appartiennent forcément à quelqu'un, mais qui sont libres d'accès. Et c'est gratifiant de pouvoir monter, travailler un objet, le façonner à sa façon et d'en faire quelque chose, que ce soit pour les oiseaux ou pour soi. Et donc là, il y a de la demande, et je pense qu'il y aura toujours de la demande, parce que c'est à la fois une pratique artistique et une révélation personnelle.
On peut peut-être parler de ces plantes ou de ces arbres qui fournissent l'osier, si l'on peut dire, pour cette confection. Quels sont-ils? Est-ce qu'on peut aussi expliquer ces saisons, lesquelles sont pour la cueillette de ces tiges? Et puis, est-ce qu'il y a un temps de préparation?
Oui, alors l'osier, c'est le sol qui est cultivé. Je n'utilise que de l'osier pour des ateliers, on va dire, collectifs, si j'ai une sollicitation par une école, parce que j'ai l'opportunité de pouvoir cueillir des sols qui sont cultivés. Mais moi, mon truc, c'est plutôt d'aller chercher des matériaux en sauvage, donc je n'utilise pas le sol de bord de rivière, je le laisse tranquille, surtout sur dix. Sur dix, il n'y en a pas beaucoup, donc je préfère que le castor puisse s'en délecter, c'est sa nourriture principale, une de ses nourritures principales. Alors il y a d'autres plantes, beaucoup d'autres plantes qui ont des ressources insoupçonnées. On a le troène, on a la ronce que personne n'aime mais qui est géniale. On a le cornouiller sanguin, la viorne lantane. On a la clématite aussi, qui est souvent, dont j'entends souvent beaucoup de mal par certaines personnes, parce qu'elle est très envahissante, c'est une liane qui envahit. Mais c'est un très beau, très joli matériau, très utile, très, très résistant. Et après, oui, il y a des temps de préparation selon ce qu'on veut faire.
Évidemment, le bois doit conserver une certaine élasticité de manière à pouvoir travailler ses tiges. Justement, ce processus, la cueillette, a lieu à quelle période, par exemple? Et puis, quel temps de préparation cela nécessite pour que ces tiges soient travaillables?
Alors, la récolte, moi, je le fais, c'est plutôt l'hiver. Donc en période où la végétation est au repos. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sève dans les tiges. Hein. Il y a toujours de la sève. Mais il y en a moins, et il y a moins d'activité pour l'arbre ou l'arbuste. Donc je le fais à ce moment-là. Et après, il y a des temps de préparation. Le temps de préparation, c'est que suivant ce qu'on veut faire, si on veut utiliser des tiges de grosse taille et qu'on veut les courber, c'est-à-dire les rendre rondes pour en faire des cercles, et qu'on les utilise dès la récolte, ça risque de poser problème. quand elles sont trop fraîches, donc il faut laisser reposer le temps que la sève tombe un peu. Donc il y a ce genre de préparation-là. Après, ben, pour un stage de plusieurs personnes, il faut arriver à jauger le nombre de matériaux récoltés pour faire le remplissage d'un panier, par exemple. Donc ça demande beaucoup de préparation, d'aller chercher sur différents endroits le nombre de matériaux dont on a besoin et arriver à en faire la préparation. Par exemple, il y a un matériau qui s'appelle la clématite qui a besoin d'être bouilli pour être utilisé. Donc ça demande quand même un certain temps de préparation et un coût aussi pour bouillir, quoi. Pour la rendre plus souple, en fait. Voilà, par exemple.
Il y a peut-être aussi un temps de trempage avant d'utiliser ce bois, de manière à ce qu'il soit plus souple.
Alors le trempage, c'est quand on a fait sécher les bois et qu'on veut les réhydrater. Ça oui, il y a un temps de trempage, ça dépend vraiment des matériaux. Sur le sauvage, j'ai essayé que le cornouiller pour l'instant, mais le temps de trempage, de réhydratation, il est assez classique sur les osiers, donc sur le sol. C'est-à-dire que le sol que je peux récolter, par exemple, en ce moment, l'osier, je le fais sécher à l'ombre et puis dès que j'en ai besoin, bah, je le réhydrate en caisson un certain nombre de jours avant de pouvoir le réutiliser et de le réassouplir en quelque sorte. Voilà. Mais ça, il y a beaucoup de spécificités en fonction des matériaux. Ça dépend de ce qu'on veut faire aussi.
Justement, quels sont les objets ? On imagine les paniers en premier lieu, mais est-ce qu'il y a... Et puis, tu citais les mangeoires ou nichoirs. D'ailleurs, ces propositions de mangeoires et nichoirs, c'est un public qui demande aussi à pouvoir créer ces objets. Ou alors, est-ce que toi, tu as une manière de faire qui peut être intéressée, qui peut intéresser n'importe quel particulier ?
Je dirais que moi, ce que je pouvais proposer, c'est d'abord la réalisation d'un panier classique. Par exemple, un panier sur arceaux pour pouvoir déjà bien appréhender la manière de faire un panier avec différentes techniques de construction, de tressage. Ça, c'est le plus facile en initiation. Et après, j'essaie un peu d'entendre et d'écouter ce que peuvent être les intérêts des unes et des autres. Pour pouvoir faire d'autres propositions par la suite. Mais la vannerie sur arceau, c'est un bon moyen d'avoir un objet assez gratifiant parce qu'on l'a fait soi-même et puis utile dans un premier temps, quoi. Ouais.
Et puis, on peut lui donner la forme qu'on veut. J'imagine qu'elles sont illimitées, les formes qu'on peut donner à un panier.
Oui, après, quand on va faire un panier au début... On essaie de prendre un panier pour transporter.
Oui.
Après, il existe en vannerie, il y a une multitude de possibilités, hein, selon les régions, en Bretagne, en Dordogne, dans le Massif central, ils ont plein de types de paniers différents. Après, on peut s'en inspirer et construire des choses différentes.
Et il y a le panier à bûches. Hein. Moi, je me souvenais de ce panier qui permet de porter 3-4 bûches ou plus, peut-être. Les fruits, ça, c'est connu. Après, il y a ces paniers de pique-nique, par exemple, une sorte de petite malle avec couvercle. Ça, c'est des choses que tu pourrais peut-être enseigner aussi. Ou alors... Il y a aussi, de ta part, à pouvoir te perfectionner, de toujours apprendre aussi les techniques qui se varient peut-être certainement au niveau de chaque région en France.
Mais il y a les deux, en fait. Moi, j'apprends toujours. J'apprends toujours en faisant et au contact des gens qui viennent pour apprendre aussi. Comme je disais, ce matin, j'ai recroisé une stagiaire de dimanche avec des brins de sol et d'autres brins de bois dans la main. Donc, c'est-à-dire qu'elle est repartie pour reconfectionner des choses. Et je lui confiais que hier, moi, j'avais envie de tester une nouvelle essence en vannerie qui est le robinier, le faux acacia, que j'ai trouvé très souple et dont j'avais lu quand même qu'on pouvait utiliser l'usage en vannerie. Donc voilà, non, pour répondre... J'apprends toujours. Après, pour faire des grandes malles de pique-nique avec ou des petites malles de pique-nique avec de matériaux sauvages, il en faut beaucoup. Le souci principal avec le matériau sauvage, c'est que s'il y a des participants d'un certain nombre, par exemple 5-6, il faut beaucoup de matériaux. Et comme ce n'est pas cultivé, il faut s'assurer qu'il y ait la ressource. Et mon truc à moi, quand même, avec la cueillette, je fais le lien avec la cueillette de plantes, l'autre métier, c'est que la ressource, elle n'est pas forcément toujours illimitée. Par exemple, je prends l'exemple de la viorne lantane où on la trouve en lisière de bois et c'est une plante que j'aime beaucoup pour tresser, mais par contre, j'en trouve pas d'énormes quantités pour faire que des paniers. Ici, en tout cas, dans le Diois. Et donc, dans le Diois, il y a beaucoup plus de cornouillers, de troènes. Donc, c'est faire avec ce qu'il y a ici. Donc, commencer à faire des gros ouvrages bien ambitieux, il faut le faire forcément avec la ressource qu'on trouve et c'est pas forcément adapté ou évident. Donc ça reste à expérimenter, mais voilà, c'est pas de la culture comme l'osier. Là, c'est plus facile.
Tu parlais de ronces tout à l'heure. On imagine des tiges pleines d'épines. L'acacia un peu aussi, j'imagine. Comment se procède justement son utilisation entre cette matière brute épineuse et cette tige souple et lisse?
Eh bien alors, il faut les enlever, les épines.
Mais est-ce qu'il y a un processus particulier pour le faire, sans abîmer peut-être la fibre de la tige?
Oui, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui utilisent le couteau pour enlever les aiguillons ou les épines. Et on peut utiliser le dos du sécateur, ça dépend après de comment on est à l'aise aussi. Ça fait partie aussi de l'apprentissage. Il y a, en fait, en vannerie, les gens avec qui j'ai appris la vannerie ont chacun exposé leur propre technique avec laquelle ils se sentent bien. Ils ont fait des expérimentations. Et après, ils nous invitent, et je le fais aussi avec les gens à qui je transmets à être le plus à l'aise avec une de ces techniques-là. Voilà. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on expérimente, que ce soit moi ou eux. Ça se passe par la pratique, par se tromper, surtout ne pas hésiter à se tromper, ça c'est important. Et on n'est jamais en situation d'échec, on apprend toujours et puis on voit ce qui nous plaît le mieux et ce qui va le mieux.
Autour de ça, il y a une démarche pour Ziga Zaga. C'est peut-être aussi réapproprier un certain savoir et des croyances sur la nature, ce qu'elle propose. Est-ce que justement il y a, par exemple, des échanges autour de ces ateliers de parole sur le sujet?
Tu veux dire pendant les ateliers?
Oui, notamment, ou peut-être proposer d'autres rendez-vous autour de cette idée?
Alors, dans les ateliers, on échange informellement, suivant les discussions. Et après, chacun aussi, dans les discussions, a envie de porter ce qu'il a dans ses tripes. Et moi, je le fais forcément avec ce que j'ai aussi dans les miennes. Après, des ateliers d'échange et de parole, et il peut y en avoir aussi dans un collectif que je viens de rejoindre il n'y a pas très longtemps, c'est le collectif Biodiversité, ADI, où là, il y a quand même matière à échanger et à agir aussi. Voilà, c'est un collectif qui se veut d'observation et de protection du dehors, de ce qui nous entoure, avec des sous-groupes thématiques comme la haie, les zones humides, le bâti aussi. Donc voilà, c'est un collectif qui est constitué, mais qui peut très bien accueillir d'autres personnes qui seraient en volonté aussi de participer, puis de discuter autour de cette thématique du dehors et de l'environnement.
Des échanges ou transmettre des savoir-faire aussi, ça c'est une volonté. D'ailleurs, des personnes qui viennent à ces ateliers ont peut-être aussi une expérience qu'elles ont envie de partager dans le domaine de la vannerie.
Oui, dimanche, il y avait une personne qui avait déjà fait 3 stages. Elle a déjà fait 3 stages avec, je crois, 2 personnes différentes. Et c'est intéressant parce que les collègues là, qui lui ont enseigné ont apporté une technique ou une approche qui était différente de la mienne Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que les personnes qui font plusieurs stages de suite, elles s'enrichissent aussi des apports apportés, des savoir-faire apportés. En tout cas, elle a pris des notes, donc ça veut dire qu'il y a des choses encore qui étaient encore à apprendre.
Je reviens sur les plantes utilisées. Depuis quelques années, on constate un assèchement des sols. Est-ce que cela impacte justement ces plantes que tu utilises pour cette confection de vannerie?
J'ai pas remarqué ça encore. Après, j'ai remarqué qu'il y a certains endroits... la clématite, par exemple, elle est complètement sèche, elle est hyper cassante, mais après, c'est ponctuel hein, sur des endroits précis. Moi, j'ai remarqué ça plutôt en cueillette de plantes médicinales. J'ai remarqué vraiment en lien avec la sécheresse et le manque d'eau, par exemple, la primevère officinale. Il est quand même dit qu'elle a besoin quand même d'un hiver plutôt humide. Et j'ai remarqué l'année dernière que l'hiver dernier, on a eu un hiver sec et la primevère, elle est très peu sortie, quoi. Et donc ça se révèle vraiment être un indicateur.
Ouais. Ça semble être la même situation pour cette année, hein.
Je sais pas, je verrai au mois d'avril. On verra.
Oui, j'ai pas trop vu de pluie hein, encore cette année. Il y a aussi les outils pédagogiques. Qu'est-ce que ça signifie justement cet abord d'outils pédagogiques? Quels sont ces outils?
Un outil pédagogique, c'est un outil qui est dédié à une séance particulière ou à un thème particulier. C'est vraiment un outil. Par exemple. Un jour, j'ai créé un outil. Quand j'ai fait mon stage professionnel d'animateur, j'ai créé un outil dans la structure qui m'accueillait. Elle m'a demandé de faire un outil sur qu'est-ce qu'une plante. Donc, j'ai créé un outil, j'ai recréé une plante avec des matériaux naturels et complètement démontable et remontable. Et ça, après, je l'ai amené dans les écoles où je suis intervenu et j'ai utilisé cet outil comme un support en fait, d'apprentissage de qu'est-ce qu'une plante. Alors derrière l'outil, il y a quelque chose de construit, mais il y a aussi une histoire. Et il y a aussi une approche sensorielle. Et en fait, l'outil pédagogique, il touche plusieurs approches. Hein. Il va chercher des choses différentes pour pouvoir sensibiliser les publics à leurs endroits différents, là où ils sont le plus sensibles.
Ces sorties nature, il s'agit pour toi de faire apprécier cette promenade et puis aussi de démontrer, d'expliquer, de désigner des plantes et leur utilité, pas forcément celle de la vannerie. Tu parlais aussi de plantes médicinales. Est-ce qu'il y a aussi d'autres plantes dans d'autres fonctions?
Tu veux dire autre que médicinal et pour la vannerie? Oui, après, il y a les plantes qu'on peut utiliser en construction. Après, moi, je suis moins calé en construction.
Je parle de ton domaine. Non, juste de ton domaine, si tu ne fais pas la construction.
Après, la vannerie, c'est la vannerie et la médicinale. Avec le médicinal, il y a l'alimentaire, indéniablement. Donc, de toute façon, quand on boit en tisane, c'est déjà l'alimentaire. Donc, c'est des plantes qu'on peut manger. Moi, au sein de Sorcier Racine, je fais pas des sorties pour la cuisine sauvage. C'est quelqu'un d'autre qui s'en charge et qui a cette sensibilité-là. En revanche, lors des sorties, moi, mon credo, vraiment, c'est l'usage des plantes pour nous, l'humanité. Mais c'est aussi les plantes, on les partage avec les autres, quoi. Tous ceux qui ne sont pas humains. Et des fois, c'est même un couvert pour eux, mais c'est aussi un gîte. Donc, j'insiste vachement sur la ressource, en fait. C'est beaucoup sur la ressource des matériaux, de la plante. Quoi.
On pourrait imaginer que la ressource est illimitée, mais pas forcément, non. Justement, si on la partage avec la faune naturelle, la nature, tout simplement, parfois, une limite s'impose.
Ah oui, c'est le plus difficile dans ce qu'on vit même. On voit bien que on voit bien dans les matériaux. Je vais pas parler de ça, mais je vais parler des matériaux rares dont on a besoin dans nos sociétés modernes, il y a une limite s'impose à un moment donné, même si on va chercher toujours plus profond dans le sol les matériaux rares, mais c'est pareil pour les matériaux de surface, on va dire, qui sont plus facilement accessibles. À un moment donné, un endroit, s'il y a moins de, je sais pas, on va dire, s'il y a moins de plantes comme l'argousier, et qu'on en fait une consommation excessive, il n'y aura plus d'argousier à un moment donné, parce que la plante, elle va s'épuiser. Et sans compter dans les haies, parce que c'est les haies que je fréquente le plus, nous, promeneurs, utilisateurs, cueilleurs, cueilleuses, on a un usage de prélèvement dans les haies, mais il y a aussi, les agriculteurs qui ont des haies à côté de leur champ et qui, soit ils en font usage, soit ils les coupent. Donc, il y a une multiplicité d'interventions humaines autour de ce système de haies et qui fait que c'est des fois un peu... ça peut devenir conflictuel, en fait, ou problématique. Pour la ressource, ça peut devenir problématique à un moment donné. Et ceux qui en bénéficient toute l'année, que sont les non-humains, eux, ils peuvent rien dire parce qu'ils n'ont pas un registre dans lequel ils peuvent dire « Hey, s'il vous plaît... » On aurait quelque chose à vous dire là-dessus, quoi. Voilà.
Justement, ces préparatifs pour ces sorties nature et de cueillette, tu les prépares aussi avec peut-être des propriétaires chez qui tu passes. Et est-ce qu'il y a un arrangement ou alors des échanges qui permettent de clarifier justement ces sorties nature?
Pour l'instant, les sorties nature, elles se font sur les domaines publics. Et c'est là où j'ai trouvé les domaines les plus riches, en fait, un bord de rivière. Et puis la sortie botanique que je fais autour du vieux village de Montmort, c'est une grande partie sur un chemin communal. Après, il y a une partie sur un domaine privé où les propriétaires, ils sont tout à fait heureux qu'on puisse passer là. Donc pour l'instant, ça ne s'est pas posé, mais ça se posera en ces termes-là quand j'aurai besoin. En revanche, pour la cueillette, c'est demande d'autorisation, en tout cas obligatoire pour moi, quoi.
Des ateliers, qu'elle proposait ce dimanche dernier, 5 février, sur une confection de vannerie, tendrait à se répéter sur ses racines, sur quel rythme, par exemple?
Ça, il faut qu'on en discute en fait ensemble. Hein. C'est pas moi qui vais décider tout seul. Ça dépendra aussi de comment on arrive à caler nos stages, parce que sur ces racines, on fait un mini stage par mois. Donc là, pour cet hiver, avec sur ces racines, c'est fini la vannerie. En tout cas, si je peux me permettre, moi j'en fais un 18-19 février prochain avec Ziga Zaga.
Alors c'est bien de l'annoncer, ça se passera où?
Ça se passera au local Adamaya.
Rue des Quatre Cantons.
C'est ça, oui. Et il reste 3 places, voilà. Donc ce sera pour faire... Par contre, ce sera un stage de vannerie de 2 jours. Il reste 3 places. Et pour revenir sur les activités avec sur ses racines, voilà, c'est quelque chose moi que j'ai vraiment envie de continuer à proposer et voir sous quel format, le format découverte des plantes avant, parce que ça aussi c'est intéressant de pouvoir faire la sortie de découverte avant de récolte et puis de faire le tressage le lendemain, c'est vraiment complet, quoi.
La vannerie, on imagine, sont ces constructions d'objets à partir de branches ou d'osiers. Est-ce que tu t'es intéressé aussi à des confections d'objets peut-être plus délicats au niveau d'un tressage?
J'ai esquissé la confection d'un petit sac. C'est de la vannerie, hein, avec du liber de tilleul. Donc le liber de tilleul, c'est une partie de l'écorce interne du tilleul qu'on met à tremper et qu'on détache après rouissage, c'est-à-dire après pourriture, si je peux dire ainsi, qu'on fait sécher, on fait des petites lanières, et après ça fait de la cordelette. Donc c'est de la vannerie cordée, on va dire. Et ça, je m'en suis intéressé parce que j'avais fait un stage avec Kim Pasch, qui lui excelle dans ce domaine. Et on avait commencé à réaliser une petite sacoche en petite bourse, en fait. Et ça, c'est plus délicat à faire. Et c'est ce que Marie Marquet m'avait incité à faire lors des journées de la préhistoire au musée 10, c'est-à-dire comment confectionner sa petite cordelette pour mettre autour du bras. Mais ces petites cordelettes, les unes avec les autres, on les assemble et ça peut faire un petit sac aussi. Après, j'ai pas continué sur la petite vannerie, on va dire plus esthétique. Il me faudrait plus de matériaux. Donc le liber de tilleul, ça veut dire qu'il faut couper les branches en montée de sève. C'est plus délicat pour les arbres. Alors je peux le faire parce que je cueille le tilleul aussi, mais c'est pas si facile à avoir que ça, quoi.
Ça nécessite une expérience et un minimum de connaissances.
Oui, puis aussi de respect et de savoir ce qu'on fait par rapport à l'arbre.
Il y a des endroits pour apprendre encore cette technique, outre celle que tu proposes. Est-ce qu'il existe des écoles reconnues qui pérennisent un peu cette activité en quelque sorte?
Alors, il existe une école, c'est un CFPPA, pour la vannerie, hein, je parle, hein, qui est en Haute-Marne. C'est l'école nationale de vannerie, je crois, l'ENOV. Ils font 11 mois de vannerie. Donc, ils ont toutes les techniques, ils acquièrent toutes les techniques possibles. Alors après, je ne sais pas s'ils font avec du matériau sauvage. Hein. Je crois que c'est beaucoup avec de l'osier. Parce qu'ils apprennent aussi à cultiver l'osier. Je pense que des vanniers, des vannières qui font avec de l'osier, ils sont obligés de cultiver, sinon ils n'auront pas assez de ressources, quoi. Mais en tout cas, il existe ça. Après, moi, j'ai envie de dire, les vannières et les vanniers qui s'installent et qui proposent des stages et qui cultivent, c'est aussi des mini-écoles quelque part. Ils transmettent. Donc, ça, il reste encore ces personnes-là pour transmettre les savoir-faire.
Ziga Zaga, comment peut-on découvrir cette structure? Quels contacts pouvons-nous avoir pour joindre?
Oui, alors bonne question. Je suis en réflexion en ce moment. Moi, je n'ai pas fait de site internet.
Il y a ce lien avec Source et Racine. Et ensuite, dans Ziga Zaga, en tapant sur le moteur de recherche, on trouve des pages consacrées à Ziga Zaga. Je crois que j'en ai trouvé une.
Ah, super.
Sur laquelle j'ai ces documents-là.
Ah ben super.
Je savais pas s'il y existait un blog ou même une page Facebook qui permette de tenir au courant de l'actualité.
Eh ben non, mais c'est ce que je disais, je suis en réflexion. En fait, je me suis lancé ce défi de ne pas créer un nouveau site internet de plus. J'ai envie de dire, avec tout ce qu'il y a comme pléthore d'informations, j'ai pas envie. Encore moins Facebook. J'utilise le site, le média Ensemble Ici, que j'aime beaucoup et auquel je participe financièrement. Hein. Donc du coup, moi, j'ai rien à créer, mais je participe financièrement. Je fais des dons et ça permet de diffuser les stages que je fais et les sorties que je vais faire en tant que Ziga Zaga. Donc voilà, c'est ce défi-là. Après, je vais placarder des flyers à Die ou dans le Haut-Diwa, aux endroits où j'ai envie que ça se sache. Et on verra comment ça fait. Mais voilà, j'ai envie que ce soit comme ça pour l'instant. Mais Facebook, c'est très peu probable que je me mette sur Facebook. Et sur ces racines, je ne crois pas que je sois visible en tant que Ziga Zaga. Je suis visible en tant que Christophe Bouchon parce que sur ces racines, il y a une multiplicité d'intervenants qui interviennent. Mais c'est quand même... l'association qui est vue, c'est quand même sur ses racines.
Eh bien, on peut rappeler cette future animation du 18 février. Donc,
18-19 février. Et 4 ou 4 et 5 mars, sinon, à Montmorency.
Très bien. Eh bien, je mettrai l'information sur le site hein, de l'émission.
Oui, merci.
Et en tout cas, Christophe Bouchon, merci d'être venu nous parler de la vannerie sauvage et de ses sorties nature sur RDIWA. Et je te souhaite une bonne soirée.
Et merci à vous. Merci à toi.
Au revoir.
Bonne soirée.
Juste un petit détail, les inscriptions pour les deux ou trois places qui restent, comment s'opèrent-elles ?
Sur le mail christophe@zigazaga.fr ou par téléphone sur Ensemble Ici. Y a, en fait, sur Ensemble Ici, les événements sont annoncés et il y a toutes les infos, le déroulement de l'activité et c'est possible par ce biais-là.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.